Il est 10h à Paris, 8h en temps universel et à Dakar. Merci d'écouter RFI. À suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions sur une possible dissolution de l'Assemblée nationale au Sénégal dès jeudi. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, l'Algérie, Abdelmajid Tebboune remporte la présidentielle avec un score écrasant, quasiment 95% des voix. Les chiffres de la participation donnés par l'instance électorale sont eux mis en doute. Le point dans ce journal. La fin de la parenthèse olympique à Paris, les Jeux paralympiques se sont refermés hier. Cérémonie de clôture et grand concert de musique électro hier soir au Stade de France. Une édition des Jeux paralympiques qui aura été marquée encore une fois par le triomphe des para-athlètes chinois. Dans ce journal également, l'appel du chancelier allemand à intensifier les efforts diplomatiques pour parvenir à la paix en Ukraine. Et puis peut-être un premier cas de variole du singe en Inde. Le cas soupçonné a été mis à l'isolement. Sans surprise, il a donc été réélu pour un second mandat. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, rempile pour un nouveau mandat. Le score est écrasant, près de 95% des voix. Les deux candidats de l'opposition n'ont obtenu qu'un peu plus de 2% et 3% des suffrages. Dès hier, le directeur de campagne d'Abdelali Hassani, candidat du principal parti islamiste, a qualifié de mascarade les chiffres de participation annoncés par l'autorité électorale. Précision avec Alexandra Bonjon.
Le président de l'autorité électorale, Hani, a annoncé la victoire du président Tebboune avec 94,65% des voix, se félicitant, je cite, d'une élection marquée par une large transparence. Mais l'affluence aux urnes était le véritable enjeu de ce scrutin. Or, sur le sujet, le président de l'Hani est resté vague, évoquant un taux moyen de 48% à la fermeture des bureaux de vote. Le taux moyen n'est pas un taux national de participation, souligne un des responsables de l'opposition, qui ajoute que si l'on compare le nombre d'Algériens qui ont voté au nombre d'inscrits sur les listes électorales, le taux de participation est plus proche des 23%. Un taux faible qui traduit, selon un analyste politique, le désintérêt et le doute qu'ont les Algériens sur les élections. Alors même, selon un autre chercheur, que le président Tebboune est en quête de légitimité pour son second mandat.
Alexandra Branjon, et hier soir Emmanuel Macron a lui adressé ses plus vives félicitations à Abdelmajid Tebboune pour sa réélection en soulignant la relation, je cite, exceptionnelle qui unit les deux pays malgré des crises diplomatiques récurrentes. Emmanuel Macron qui était hier soir au Stade de France pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Aux côtés d'Andrew Parsons, le président du Comité international paralympique, qui a lui salué dans son discours les Jeux les plus spectaculaires de tous les temps. Autre prise de parole, celle du président des Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet. Il a été acclamé par le public du Stade de France.
Cet été, la France avait rendez-vous avec l'histoire et elle a répondu présent. Elle a eu l'audace d'imaginer des choses qui n'avaient jamais été faites. Les premières cérémonies d'ouverture olympique et paralympique hors d'un stade. Les premiers Jeux au cœur de la ville. La France a eu l'audace de croire dans le pouvoir du sport. Avec les Jeux, on a redécouvert notre patrimoine, notre créativité et notre capacité à accomplir de grandes choses. On a redécouvert notre joie de vivre, notre impertinence parfois et surtout toute cette énergie positive qui a explosé dans les tribunes. Ces Jeux auront été une rencontre de notre pays avec lui-même. La France qui sourit, la France qui s'aime, la France dont on est fier, la France de tous les records. Record de médailles, record de spectateurs, record d'audience, record d'ambiance.
Tony Estanguet acclamé hier au Stade de France. Le Stade de France qui s'est transformé de nouveau hier en arène de la musique électro. Martin Solveig, Kavinsky, Cassius et Jean-Michel Jarre, pionniers de la musique électro en France. Dans le stade, devant 60 000 spectateurs, il a donné un concert. Plus de 4 000 athlètes ont participé à la fête et notamment les para-athlètes chinois qui ont dominé ces Jeux paralympiques. La Chine arrive largement en tête du tableau des médailles. 94 médailles d'or, 220 médailles au total. Sur les raisons de ce succès, les explications à Pékin de Cléa Broderst.
L'approche chinoise de la recherche et de la formation des athlètes paralympiques est très organisée et soutenue par un investissement important du gouvernement. Les talents sont identifiés par le biais d'un réseau d'associations de sport pour handicapés, de programmes communautaires et de compétitions nationales. Les athlètes prometteurs sont ensuite sélectionnés pour les centres d'élite, où ils sont ensuite soumis à un entraînement rigoureux et ils bénéficient de la technologie liée à la rééducation et à l'analyse des performances. L'investissement important du gouvernement dans les sports pour handicapés fait partie d'une stratégie plus large visant à projeter l'image globale de la Chine et assurer l'inclusion sociale. Pékin présente son succès dans le domaine du parasport comme le reflet de ses valeurs socialistes visant à élever la communauté des personnes handicapées. Cela correspond aux théories de l'intervention de l'État dans le sport en tant qu'outil de légitimité politique et de soft power. En Chine, l'enthousiasme n'a pas été aussi fort que pour les Jeux olympiques. On pointe souvent du doigt des problèmes sociétaux plus vastes tels que l'attention limitée portée aux défis quotidiens auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Claire Broderst, Pékin, RFI.
Et au tableau des médailles derrière la Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France, elle, termine en 8e position ses 17e Jeux paralympiques à Paris. Dans l'actualité également de ce lundi, le bilan qui s'alourdit en Syrie, au moins 14 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes, annonce faite par l'agence officielle syrienne Sana. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque, lui, 18 morts. Des sites militaires sensibles ont été pris pour cible. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, en 2011, Israël a mené dans le pays des centaines de frappes aériennes visant l'armée de Bachar al-Assad et les groupes pro-iraniens qui soutiennent le régime syrien. L'Iran condamne ce matin ce qu'il nomme une attaque criminelle israélienne. L'appel du chancelier allemand a intensifié les efforts diplomatiques pour parvenir à la paix en Ukraine. Hier soir, dans une interview de 20 minutes à la chaîne ZDF, il est revenu, Olaf Scholz, sur le contenu de son entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'était vendredi dernier, lors de sa visite en Allemagne. À Berlin, Ludovic Piétenu.
De nouveaux systèmes de défense aérienne livrés dans les prochains mois, ainsi que 12 chars. Avec ses annonces faites vendredi, Berlin insiste sur son soutien militaire à l'Ukraine et le chancelier Scholz de préciser aussi longtemps qu'il le faudra. Sauf que le budget pour 2025, sous réserve qu'il soit voté par le Parlement, prévoit de diviser par deux cette aide stratégique, de 8 à 4 milliards d'euros. D'où la nécessité de mettre fin à ce conflit. Après la première conférence sur la paix de juin dernier en Suisse, le temps est venu d'un nouveau sommet.
C'est maintenant le moment de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir à la paix plus rapidement. Il y aura sans aucun doute une autre conférence de paix. Et le président Zelensky et moi sommes d'accord sur le fait qu'elle doit se faire avec la Russie.
C'est un message à Moscou qui avait refusé de participer à la première conférence. C'est un message aussi aux téléspectateurs allemands. Olaf Scholz a entendu le résultat des deux élections régionales qui, il y a une semaine, ont montré dans la partie est de l'Allemagne un rejet croissant du soutien militaire à l'Ukraine. À un an des élections fédérales, si le chancelier veut sauver sa place, une sortie rapide de ce conflit pourrait lui être profitable. Ludovic Piétenu, Berlin, RFI.
Un premier cas de variole du singe suspecté en Inde sur un voyageur. Il a été mis à l'isolement depuis l'alerte de l'OMS sur cette maladie. Des mesures sanitaires sont prises depuis plusieurs semaines dans ce pays d'1,4 milliard d'habitants où le Covid est encore dans toutes les têtes, à Bangalore comme Bastan.
Le pays dont venait cet homme n'a pas été communiqué. Pris en charge et isolé dans un hôpital, il est testé en ce moment même pour confirmer la présence du virus et de la souche dite du Congo, beaucoup plus létale que les autres. Ses contacts sont reconstitués pour tracer d'éventuelles contaminations. La seconde vague de Covid qui avait vu les cas et les morts exploser et les autorités dépassées est un traumatisme en Inde. Les autorités se veulent cependant rassurantes, rappelant que le mode de transmission est beaucoup moins viral dans le cas de la variole du singe et jugeant les risques d'épidémie très faibles. Depuis l'alerte de l'OMS le 14 août, le ministère de la Santé a annoncé des mesures solides contre cette maladie. Tous les États ont préparé des hôpitaux pour isoler et soigner des patients infectés. 32 laboratoires sont prêts à réaliser des tests dans le pays où 30 cas de variole du singe et un mort ont été avérés depuis 2022. L'Inde surveille aussi la situation de ses voisins après plusieurs cas avérés au Pakistan et des cas suspectés au Népal ou aux Maldives. Kombastin, Bangalore, RFI.
Et puis un mot de sport, de tennis, l'Italien Yannick Sinner, vainqueur de l'US Open hier face à l'Américain Taylor Fritz, deuxième titre du Grand Chelem après l'Open d'Australie en janvier dernier, 10h10 à Paris. Et tout de suite, suite vous retrouver Juan Gomez.
8h10 en temps universel, c'était le journal de Jeanne Bartoli. Restez avec nous dans 30 secondes. RFI vous donne la parole.